maladie caractérisée par une insuffisance placentaire. Au niveau du placenta, il y a des invasions artérielles. Alors, au courant de la deuxième invasion artérielle, les artérioles spiralées, il y a un défaut d'invasion de ces artérioles-là, ce qui fait qu'il y a des cellules trophoblastiques qui ne pénètrent pas les artérioles. Alors, ces artérioles restent lisses et qui perdent un peu leur élasticité, ce qui fait qu'au niveau du placenta, il y a une diminution du débit sanguin, du flux maternel qui vient vers le placenta, ce qui va entraîner un état d'hypoxie, ça veut dire un état d'insuffisance en oxygène. Cet état d'hypoxie-là entraîne la libération de certaines enzymes comme la prostacycline et le thromboxane A2. Il y a une insuffisance en prostacycline, qui est une enzyme vasodilatateur. Alors, plus la thromboxane A2 qui est vasoconstructeur qui est annexée, alors ces déséquilibres-là fait qu'il y a une hypertension. Cette insuffisance en oxygène au niveau placentaire va entraîner des lésions au niveau de l'endothélium. Et cet endothélium-là libère le peroxyde, des radicaux libres qui sont toxiques pour les reins, une insuffisance rénale, pour le foie, au niveau du cerveau, développer une éclampsie et tout. Donc, en résumé, c'est ces défauts d'invasion des artérioles spiralées qui causent cette insuffisance placentaire.
Vous venez de faire un lien direct entre l'hypertension artérielle et la pré-éclampsie. Moussa Abdallah Keïta aimerait savoir si cette hypertension touche directement le placenta ou bien si elle touche directement la maman elle-même.
L'hypertension artérielle, c'est chez la maman. Au niveau du placenta, nous avons de petits artérioles là qui viennent de la mère, qui sont des dérivés de l'artère utérine. Alors, ces artères spiralées, ils sont plus en vasoconstriction, c'est qu'ils sont plus rétrécis, ils sont vraiment rétrécis, ce qui fait que le flux sanguin qui quitte les lieux vasculaires de la maman vers l'enfant, il diminue. Alors, c'est chez la maman qu'on a cette hypertension artérielle, mais chez l'enfant, par contre, on a une insuffisance en apport sanguin, que ce soit en oxygène, qui entraîne d'autres conséquences ou complications comme une insuffisance en oxygène, une souffrance fœtale, un retard de croissance intra-utérine.
Je crois qu'avec toutes ces explications, vous avez dissipé les inquiétudes d'Aline Guéfou qui se demandait si la pré-éclampsie n'atteignait que les femmes enceintes.
Oui, la pré-éclampsie, c'est une maladie du placenta, donc c'est une maladie que de la femme enceinte.
La pré-éclampsie ne touche-t-elle que les femmes enceintes jeunes ou bien elle s'étend à d'autres catégories de femmes? Cette question nous vient d'Alphonse Mbouaki, qui nous écrit depuis la République démocratique du Congo.
Toutes les couches sociales sont concernées, mais quand on est jeune, les femmes qui ont un âge inférieur à 18 ans, les deux extrêmes, hein, et les femmes qui ont un âge supérieur à 40 ans, en plus, elles risquent de faire cette pré-éclampsie-là. Mais il y a d'autres facteurs de risque comme étant le surpoids, l'obésité ou une femme qui est déjà hypertendue a ses risques de faire cette pré-éclampsie.
Il s'avère que l'éclampsie est beaucoup plus répandue chez les femmes rurales. Est-ce la même chose avec la pré-éclampsie?
La pré-éclampsie, en ville, nous avons plus de pré-éclampsie puisque parmi les facteurs de risque de la pré-éclampsie, on nous parle aussi du stress. Il y a plusieurs femmes qui travaillent et qui sont stressées et par des mécanismes non encore bien expliqués peuvent développer cette éclampsie. Mais c'est fait que le taux de pré-éclampsie est élevé que dans les milieux ruraux puisque on s'est dit que les femmes de milieu urbain ou de la ville viennent plus en consultation prénatale. Alors ce qui fait qu'on peut facilement tomber sur la pré-éclampsie qui est de femmes de milieu rural qui ne viennent pas dans les consultations prénatales ou qui viennent rarement. Ce qui fait que c'est un peu rare de tomber sur la pré-éclampsie dans ces milieux-là.
À quel moment exact de la grossesse la pré-éclampsie peut-elle se déclencher?
Généralement, la pré-éclampsie se manifeste à la 20e semaine d'aménorrhée, après la 20e semaine d'aménorrhée. Mais chez certaines personnes, elle peut arriver avant la 20e semaine d'aménorrhée. Là, on parle d'une pré-éclampsie qui est précoce.
Lors de notre émission sur l'éclampsie, vous aviez révélé qu'elle pouvait aussi se manifester après la grossesse. Est-ce que c'est le même cas avec la pré-éclampsie? Peut-elle aussi se manifester postpartum?
Oui, on peut faire aussi une prééclampsie en postpartum ou après l'accouchement. Comme je viens d'expliquer le mécanisme là, il y a certaines substances toxiques qui sont libérées dans la circulation maternelle qui doivent être éliminées, n'est-ce pas, par le rein maternel. Il se fait que ce n'est pas éliminé tout de suite. Ça prend un certain temps pour être éliminé. Alors, la femme peut s'accoucher chez une femme qui a fait une prééclampsie tardive ou une prééclampsie qui est passée inaperçue. Nous pouvons détecter ça juste après l'accouchement.
Parmi vos patientes, il y en a combien qui ont développé la prééclampsie?
Parmi les patientes qu'on suit, il y en a quand même plusieurs. On peut aller autour de même 15%, 10 à 15% qui font de prééclampsie.
Ce pourcentage paraît beaucoup plus élevé que celui de vos patientes qui font de l'éclampsie.
Oui, la prééclampsie est plus fréquente que l'éclampsie. Puisque quand les dames nous viennent avec la prééclampsie, s'ils suivent le CPN ou ils respectent les plannings, les calendriers que le médecin ou la sage-femme peut donner à cette gestante-là, s'ils respectent ces calendriers, ils viennent, on fait des examens pour détecter certaines maladies qui peuvent compromettre la bonne évolution de la grossesse. La CPN est recentrée et on peut la trouver de la 24e, entre la 22e et la 24e semaine, on peut faire une échographie Doppler, on voit cette mauvaise invasion des artérioles spiralées où on peut prendre la tension artérielle autour de la 20e semaine. Là, on voit qu'il y a une hypertension. On commence les traitements d'où la femme peut s'en sortir indemne. Par contre, si une femme qui ne fait pas le CPN ou qui ne respecte pas son calendrier de ses consultations prénatales, elle peut aller vers développer l'éclampsie ou d'autres complications de la prééclampsie.
Quelles sont les autres complications qu'une prééclampsie peut entraîner, docteur?
La prééclampsie peut toucher le cerveau, c'est là que nous parlons de l'éclampsie, mais ça peut toucher aussi les reins et qu'une personne développe une insuffisance rénale, ça peut toucher le foie, une personne peut développer une insuffisance hépatique ou jusqu'à aller à une rupture capsulaire du foie, ça peut toucher l'œil, ça peut toucher la circulation, le sang, une personne peut faire une TVD. Donc, ça a plusieurs complications. Alors, dès que vous découvrez cette maladie tôt, vous donnez les traitements, vous avez plus de chances à ne pas tomber dans des complications.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
La prééclampsie est liée à l'hypertension artérielle. S'agit-il d'une hypertension qui est antérieure à la grossesse ou qui est apparue avec la grossesse?
Cette hypertension dont je parle, c'est une hypertension qui est développée pendant la grossesse. Mais il peut y avoir une femme qui était hypertendue, qui développait une hypertension déjà avant la grossesse et de faire une prééclampsie. Là, on parle d'une hypertension artérielle si rajoutée.
Excepté l'hypertension artérielle, y a-t-il d'autres pathologies qui peuvent rendre la femme beaucoup plus vulnérable à la prééclampsie?
Le diabète et l'obésité, c'est ce qui peuvent la rendre plus susceptible à développer cette prééclampsie.
Donc cela signifie que la femme enceinte doit aussi faire attention à son alimentation et à ce qu'elle boit.
Oui, à son alimentation et à ce qu'elle boit. D'ailleurs, à partir du troisième trimestre de la grossesse, c'est pourquoi nous prélevons le poids de la femme, de la gestante, dès le début de la grossesse. Quand une femme au cours de la troisième trimestre de grossesse commence à ajouter plus de 500 grammes par semaine, là, vous savez déjà qu'il y a un problème, elle peut faire une prééclampsie.
De façon générale, quelle pourrait être la meilleure alimentation d'une femme enceinte?
Une femme enceinte, elle doit prendre tout ce qu'il y a d'abord comme légumes, qui a toutes sortes de vitamines, ainsi que des aliments riches en fer, n'est-ce pas? Comme le fer est un bon conducteur de l'oxygène, ou de femmes pendant la grossesse, souvent elles nous font des anémies, alors elles doivent manger une alimentation riche en vitamines ainsi qu'en fer, et éviter par exemple de manger les kaolins qui peuvent conduire à une anémie. Mais toutes sortes d'alimentation, elle peut prendre. Mais sinon, si c'est une femme déjà qui a risque de développer la prééclampsie, c'est comme ça que nous interdisons les aliments riches en vitamines qui peuvent entraîner une prise de poids et aller chuter à la prééclampsie.
Vous avez évoqué le kaolin qu'on appelle aussi calaba ou la terre. Les femmes apprécient ça beaucoup,
oui.
Les femmes enceintes notamment. Pourquoi le kaolin serait-il dangereux?
Les femmes enceintes prennent ça généralement suite à une hypocalcémie. Généralement, en début du deuxième trimestre de la grossesse, donc autour du troisième, quatrième, cinquième, sixième mois, les femmes développent deux fois une hypocalcémie. Cette hypocalcémie-là entraîne chez certaines femmes des envies de goût un peu bizarre, si je peux dire ça comme ça, excusez-moi pour le manque de mots qu'il fallait. Et c'est comme ça que certaines se réfugient vers les kaolins.
Comment empêcher alors la femme de consommer le kaolin ou le kalaba?
Quand une femme fait le TPN, là, la consultation prénatale, lors du premier trimestre de la grossesse, n'est-ce pas, nous les supplémentons en fer et en acide folique, le fer pour remonter les taux d'oxygène, l'acide folique pour empêcher que l'enfant fasse des malformations. Maintenant, au cours du deuxième trimestre, là, nous donnons plus les calcium pour que la femme n'ait pas ses envies de prendre le kaolin.
D'accord.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Alors, l'une des questions que nos auditeurs ont beaucoup posées concerne l'impact de la pré-éclampsie autant sur la maman que sur le bébé. Alphonse Boaki veut savoir quel est l'impact de la pré-éclampsie sur le bébé qui est encore dans l'utérus de sa mère.
Les conséquences de la prééclampsie sur le bébé, c'est ce que nous appelons des complications. Nous avons parlé d'une insuffisance placentaire, c'est que le placenta n'est plus vascularisé normalement, ce qui fait qu'il y a le débit sanguin de la maman vers le bébé à diminuer. Tout l'enfant souffre d'une insuffisance en apport, que ce soit alimentaire ou en oxygène de la maman, ce qui fait que l'enfant va être dans un état de souffrance fétale, on entend par l'enfant, ça peut être aigu ou chronique. Cet état de souffrance fétale peut entraîner un retard de croissance intra-utérin. Donc l'enfant, quand il naîtra, il aura un poids plus faible que son âge. Ça peut entraîner encore la mort fétale intra-utérin. Donc l'enfant meurt dans les ventres de sa maman. Ça peut entraîner encore un taux élevé de prématurité puisque le médecin, quand il regarde la préclampsie, commence à compliquer. Il déclenche l'accouchement. Si l'enfant a déjà un âge de viabilité. Alors ça, c'est au niveau de l'enfant. Au niveau placentaire elle-même, cette insuffisance en apport en oxygène, ça entraîne un état d'hypoxie. Cet état d'hypoxie-là, ça va entraîner la libération de radicaux libres que je vous avais dit, le peroxyde toxique-là, ils vont entraîner l'apoptose, donc la mort cellulaire au niveau du placenta, ce qui pourra entraîner un hématome rétro-placentaire chez la maman où le placenta se décolle plus rapidement.
À quel moment le placenta doit-il normalement se décoller?
Normalement, le placenta doit être décollé juste après l'accouchement. Mais cet état-là d'hypoperfusion peut entraîner ce décollement précoce de ce placenta-là. Et la femme peut faire une hémorragie interne. Si elle n'est pas prise en charge, elle peut en mourir. C'est ce qu'on appelle des pépénies.
En dehors de la mort que vous venez d'évoquer et qui est vraiment une conséquence très tragique de la pré-éclampsie sur la mère, y a-t-il d'autres conséquences que la pré-éclampsie peut entraîner sur la mère? Je sais que vous avez déjà évoqué certaines d'entre elles.
Au niveau de la mère, le conséquence, il y a une insuffisance rénale, il y a le CIVD, il y a insuffisance au niveau hépatique du foie. Ça peut entraîner même une hypertension artérielle chronique. Donc la personne qui a développé une pré-éclampsie, si elle n'est pas bien prise en charge, peut être hypertendue à la longue. Voilà les conséquences de cette maladie chez la femme au niveau de son placenta et chez son bébé.
Parmi les conséquences au niveau de la maman, vous avez évoqué le CIVD. Ça veut dire quoi, docteur?
Le CIVD veut dire la coagulation intravasculaire disséminée. Donc, ce qui fait que chez cette femme, par exemple, le facteur de coagulation sera insuffisant. Quand je vous ai parlé de l'hématome rétro-placentaire qui sera formé précocement, cet hématome-là prend la quasi-totalité de facteurs de coagulation. D'où chez cette femme, si elle commence à saigner, pour avoir la coagulation, il faudra apporter du sang frais et ainsi de suite.
Ok. La pré-éclampsie aura-t-elle des répercussions sur la croissance du bébé ou sur sa vie d'adulte?
Les conséquences, c'est plus quand le bébé est au niveau intra-utérin. donc quand il est encore dans les ventres maternelles. Mais si, par exemple, la pré-éclampsie, elle devient sévère, non, la pré-éclampsie, non seulement qu'elle peut se compliquer, mais elle peut devenir sévère, n'est-ce pas? Quand elle devient sévère, le médecin peut juger en fonction de bénéfices ou risques et la santé maternelle et la viabilité du fœtus que la mère porte. Alors le médecin peut se décider de déclencher l'accouchement artificiellement. Et si cet accouchement est déclenché chez un fœtus qui est autour de la 32e semaine, qui est encore prématuré, alors vous allez comprendre que quand l'enfant va grandir, il peut avoir une insuffisance au niveau du développement de son cerveau. Alors, il pourra, par exemple, commencer à parler dit peu, parler tardivement ou marcher tardivement.
Voilà, mais cela ne va pas affecter ses capacités cognitives ou son intellect.
Oui, ça pourra être affecté si la prématurité était vraiment sévère. Si c'était une grande prématurité, mais une prématurité chez un enfant autour de la 34e semaine, par exemple, cet enfant peut vivre facilement. Quand l'âge de l'enfant était autour inférieur à 32 semaines, là, on pourra avoir des conséquences non seulement cognitives, mais respiratoires aussi.
On a compris que la maman pourrait développer des pathologies chroniques comme l'hypertension à cause de la pré-éclampsie. L'enfant pourrait-il aussi développer des maladies chroniques dues à la pré-éclampsie de sa maman quand elle était enceinte?
Non, en fait, cette maladie respiratoire chez la mère, pas chez l'enfant. L'enfant, c'est plus, il peut en mourir ou il peut avoir un retard de croissance ou le médecin peut se décider de déclencher l'accouchement prématurément. C'est ce que l'enfant peut subir.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Une femme qui a été pré-éclamptique, est-elle condamnée à développer la pré-éclampsie lors de ses grossesses futures?
Une femme qui a développé déjà la pré-éclampsie peut aussi développer lors des prochaines grossesses cette pré-éclampsie ou même l'éclampsie. Puisque la pré-éclampsie elle-même, elle est une maladie multifactorielle. Donc il y a plusieurs facteurs. Les facteurs peuvent être immunologiques, ils peuvent être génétiques. On peut y associer les antécédents comme avoir développé la pré-éclampsie. Ça peut être d'autres maladies surajoutées comme le diabète, une personne diabétique peut faire, ou la prise de poids.
Albert Mbayi, Alphonse Mbouaki et Adeline Nguinfo s'intéressent aux moyens de prévention de la pré-éclampsie. Comment prévenir cette maladie?
Pour prévenir cette maladie, ici chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, nous devons demander à nos femmes de respecter leur calendrier de CPN, ce que nous appelons, au personnel soignant aussi de faire la CPN recentrée, donc les consultations prénatales recentrées, où il y a les activités de dépistage et les activités, n'est-ce pas, curatives et préventives. Une femme qui suit les CPN et que vous faites les activités là de dépistage, vous pouvez prévenir, n'est-ce pas? Vous pouvez détecter cette hypertension autour de la 24e semaine, 22e semaine et vous commencez à traiter, à donner des antihypertenseurs. Vous pouvez mettre l'aspirine junior. Mais comme nous avons dit, un des facteurs de risque était que la femme était stressée. Il y a des antioxydants chez une femme à risque de développer la pré-éclampsie.
Et à quel moment, généralement, commencez-vous le traitement?
Vous pouvez donner des antioxydants dès les premiers trimestres de la grossesse. Donc, vous donnez ça, ça peut prévenir la pré-éclampsie.
À votre avis, qu'est-ce qui pourrait freiner les mesures nécessaires pour prévenir la pré-éclampsie?
Ce qui pourrait compliquer, à part la non-observance du traitement que le médecin peut donner, c'est l'irrégularité aux consultations prénatales. Cette irrégularité-là peut aussi entraîner ça chez certaines matrones ou sages-femmes non formées. Cet état-là, cette préclampsie précoce ou préclampsie peut passer inaperçue, entraîner la préclampsie ou l'éclampsie à la longue. Peut passer inaperçue. Alors, la méconnaissance auprès de certains personnels de santé, ainsi que la non-observance du traitement et l'irrégularité aux consultations prénatales, peut entraîner cette pré-éclampsie.
Alors, que préconisez-vous pour combler ces lacunes?
Pour combler ces lacunes, ce que nous pouvons suggérer, c'est qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait une subvention, par exemple, dans tous les hôpitaux généraux de référence ou les centres de santé ou des maternités, si l'État peut subventionner que ces consultations soient gratuites à ce moment-là, ça devient accessible à toutes les femmes. Deuxièmement, il faudra que le gouvernement ou les gynéco-obstétriciens, en collaboration avec le gouvernement, organisent de formations pour le sage-femme et le matron qui travaillent au service de la maternité et d'élever leur niveau ou de susciter leur curiosité sur cette maladie. Enfin, chez nos femmes, les encourager à être régulières, n'est-ce pas, ou à respecter les calendriers que le médecin peut faire dès la première consultation de la confirmation de la grossesse. Avec ça, nous pouvons diminuer les taux de pré-éclampsie.
Pour terminer, qu'est-ce que vous dites à l'endroit de toutes les femmes enceintes ou toutes les personnes qui vous suivent concernant la pré-éclampsie? Qu'est-ce que ces personnes doivent garder?
Ce que ces personnes doivent garder chez toutes les femmes enceintes, je demande à chaque fois qu'elle a une grossesse, qu'elle confirme d'elle-même ou que le médecin confirme à la première consultation, d'être régulière à ces consultations prénatales-là. Et nous demandons au personnel soignant, à d'autres médecins ou à des sages-femmes, à chaque fois qu'ils peuvent détecter cette hypertension précocement ou autour de la 20e semaine, d'encourager la MAPA, donc la mesure de la pression artérielle en ambulatoire chez la femme, de l'encourager de connaître ou de commencer à prélever sa tension artérielle si elle a le moyen à la maison. Ça pourra diminuer les complications de la pré-éclampsie. Mais chez d'autres personnes qui nous suivent, je dirais que la pré-éclampsie, c'est une maladie du placenta qui se manifeste dès la 20e semaine de la grossesse et qui doit être prise en charge. Mais si elle n'est pas prise en charge, elle peut aller vers sa sévérité ou vers les complications qui sont néfastes pour la femme et pour le bébé qu'elle porte.
Au revoir, Dr. Maureen Sungu. Et merci encore d'avoir été notre invité.
Je vous en prie, Nani.
C'était notre entrevue avec le docteur Maureen Sungu, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Quentinaire et à la polyclinique Shukrani à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. C'est ici que s'achève cette émission « Votre santé, votre avenir ». Elle était axée sur la pré-éclampsie. Notre invité, le docteur Maureen Sungu, a expliqué comment se développe cette pathologie chez la femme enceinte. Il a aussi alerté sur les dangers qu'elle présente aussi bien pour la mère que pour son bébé avant d'évoquer les moyens de prévention de la pré-éclampsie. Le docteur Maureen Sungu est médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Quentinaire et à la polyclinique Shukrani à Lubumbashi dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Au micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555